Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. En 2006, le philosophe André Glucksmann nous confiait à ce même micro, et nous sommes nombreux à nous en souvenir car l'émission fut particulièrement émouvante, sa rage d'enfant. Et ceux d'entre vous qui l'ignoraient l'ont vite compris, sans avoir la prétention d'être un prophète d'Apocalypse, André Glucksmann est manifestement un penseur en colère, avec une question qu'il pose et qui me semble résumer toutes les autres. Existe-t-il une manière de vivre, non pas dans, mais face à l'absurde ? Eh bien, André Glucksmann est à nouveau à nos côtés cette semaine et je le remercie pour, d'une certaine façon, développer la réponse qu'il nous fit à l'époque et qu'il déploie dans l'essai qu'il vient de publier chez Plon sous le titre « Les deux chemins de la philosophie ». Philosophe en colère, et je dis oui sans aucun doute, et j'ajoute, mais là ça n'engage que moi, et c'est tant mieux. Philosophe en colère d'abord et surtout contre ceux qui enseignent que les idéologies ne sont plus de saison. André Glucksmann cite Michel Foucault. « Il y a des moments dans la vie, affirmait Foucault, où la question de savoir si on peut penser autrement qu'on ne pense et percevoir autrement qu'on ne voit est indispensable pour continuer à regarder et à réfléchir. L'ennemi des socratiques anciens et modernes, ajoute Glucksmann, c'est le prestidigitateur, sophiste ou postmoderne, qui s'emploie à travestir les instincts de mort en passions anodines. Tous les jours, on assiste au retour toxique, cupide, stupide ou guerrier d'un Méphisto aux mille visages qui offusque ceux qui veulent ignorer que le cher disparu ne nous a jamais lâchés d'une semelle. Eh bien, c'est ce Méphisto-là que mon invité a décidément choisi d'affronter. Et sans aucun doute, jusqu'à la fin de ses jours. André Glucksmann, bonsoir.
Bonsoir et merci.
André Glucksmann, en disant ce que je viens de dire, ai-je forcé le trait à votre endroit ? Autrement dit, en répétant que vous étiez un philosophe en colère et en colère contre le mal et contre ceux qui ne veulent pas le voir. Est-ce que j'ai dit vrai ?
Bien sûr, vous avez dit vrai. Pour ceux qui ont écouté, il faut préciser que Foucault est un des rares à m'avoir appuyé quand j'ai parlé de Solzhenitsyn, du Goulag, etc., un des rares à parler de la grande colère des faits. C'était le titre de son article très en ma faveur dans l'Observateur à l'époque. Et je dirais que Méphisto, c'est pas un diable au sens traditionnel du terme, que ce soit dans les mythologies ou dans les religions, c'est ce que Socrate, justement, appelait typhon, c'est-à-dire une forme de brutalité, d'inhumanité, qui n'est pas le fait du démon extérieur, qui est le fait de nous. Et quand Socrate dit « connais-toi toi-même », il ne parle pas d'un narcissisme, il ne dit pas « admire-toi », il dit « connais tes propres défauts ». Connais tes propres erreurs, connais tes propres cruautés et tire-en des leçons.
Alors, j'ai dit que vous étiez en colère et ça transparaît dans ce nouvel essai. Manifestement, vous avez, je dirais intellectuellement, mais trempé votre plume dans le vitriol. Hein. Je vais citer, par exemple, ce que vous écrivez, page 121, mais je le répète, ça n'est qu'un exemple. « Peut-être écrira-t-on un jour l'histoire complète des temps modernes en retraçant le combat de géants qui opposa d'un côté les peuples illuminés mobilisés par des maîtres penseurs ou des prêcheurs escrocs du plus bas étage. De l'autre, le vulgum pecus accroché à son bon sens, défendant parfois au prix de sa vie une très individuelle liberté de penser. »
Disons maîtres penseurs et par ailleurs escrocs du plus bas étage. Parce que les maîtres penseurs, les gens qui utilisent la philosophie pour donner des solutions, donner des promesses, ce sont des grands penseurs. Moi, mon problème, c'est que le plus grand penseur du XXe siècle, c'est Heidegger. Il est respecté aujourd'hui par toutes les universités, de Berkeley au Japon, bientôt en Chine et évidemment en Sorbonne. Et ce philosophe, et c'est vraiment un philosophe, c'est ça le problème, était nazi et nazi. En fait, il a gardé sa carte du parti nazi de 33 à 45.
Pour l'auditeur, on en vient directement à cet essai. Au fond, vous tracez deux chemins de la philosophie, deux façons de philosopher. D'un côté, votre cher Socrate, et j'ai envie de dire, qui ne cesse de questionner et qui raconte pourquoi et comment. Et puis de l'autre, Heidegger, qui lui apporte une réponse, dites-vous, englobante. Alors évidemment, Socrate contre Heidegger.
Oui, mais disons que ce sont deux lignées de philosophes. Socrate, c'est l'origine de la philosophie, c'est quasiment lui qui invente le nom. Et il dit, l'homme doit philosopher, mais les dieux ne philosophent pas. Pourquoi ? Parce que la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Alors que les dieux, ils ont officiellement la sagesse, donc ils ne philosophent pas. Philosophie, c'est l'essence de la réflexion humaine. Et le premier mot de la philosophie, ce serait en quelque sorte « je ne suis pas Dieu ». Et je n'ai pas tous les pouvoirs et toutes les sciences attribuées à Dieu. Et cette coupure-là fait toute la recherche de Socrate. Alors Socrate, lui, comme vous dites, il pose des questions. Et il pose des questions à tout le monde. C'est un philosophe de la rue. Il traverse la place publique, ce qu'on appelait l'agora à Athènes, et il interroge tout le monde. Il interroge les ouvriers forgerons, les marins, c'est-à-dire le petit peuple. Mais il interroge aussi les puissants de ce monde. Les hommes politiques, à l'époque il n'y avait pas de curé, mais enfin il y avait quand même des prêtres, les poètes, et puis les savants qui prétendent justement apporter des solutions et qu'il appelle les sophistes. Donc il interroge tout le monde et il interroge en plein air, c'est-à-dire dans la rue, et tout à coup autour de lui s'assemblent des jeunes gens qui ne sont pas emporté par les prophéties de Socrate, mais par les questions de Socrate.
Oui, il interroge, il ne répond pas vraiment. D'ailleurs, le jeune Platon lui pose des questions. Par exemple, comment s'y retrouver dans toutes ces valeurs ou dans les pertes de valeurs. Bref, mais Socrate apporte plus une méthode qu'une réponse.
Oui, il apporte une méthode qui est de se connaître soi-même. Et qu'est-ce que c'est la connaissance de soi ? C'est la connaissance de tout ce qu'on est capable de dire et de penser et de faire sans y réfléchir. Ce qu'il apporte, c'est la réflexion sur soi. Vous savez, l'histoire dit que Socrate a eu sa vocation quand un ami est allé interroger l'oracle de Delphes en lui demandant « Mais oracle, quel est l'homme le plus sage de la Grèce ?» Et l'oracle de Delphes a répondu, il y a différentes versions, mais en gros, ceci, c'est Socrate. Et l'ami revient vers Socrate et dit, l'oracle a dit que tu étais le plus sage. Et Socrate dit, mais c'est par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire à examiner ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux là-dedans. Donc, si on me dit que je suis le plus sage, ben, je vais interroger tous ceux qu'on appelle sages, tous ceux qui se prétendent sages, et voir s'ils sont pas plus sages que moi, au fond. Et là, ils découvrent que, en général, les sages sont sages parce qu'ils s'auto-affirment sages. Ils disent qu'ils savent, et ils en mettent plein la vue, et plus ils sont compliqués, et souvent la philosophie en met plein la vue, elle est compliquée, tout cela ne répond pas aux questions. Ils donnent des réponses avant les questions. Et la force de Socrate, c'est de dire, finalement, je sais que je ne sais rien.
André André Glucksmann, est-ce que à Heidegger, que vous opposez d'une certaine façon, d'une façon méthodologique à Socrate, apporte des réponses sans poser les bonnes questions? Autrement dit, André Glucksmann, dites-nous en quelques minutes quelles sont les positions philosophiques, les grands concepts philosophiques de Heidegger, pour qu'on vous suive bien tout au long de cette émission.
Écoutez, c'est plus simple que ça. C'est pas les grands concepts qui font problème. Heidegger est un philosophe. Mais c'est un philosophe par excellence. Il est dans la lignée des maîtres penseurs et finalement, originellement des sophistes, il prétend savoir. Et le fait qu'il soit philosophe quand même vient du fait qu'il a commencé la philosophie à partir de 1920 à peu près, c'est-à-dire quand l'Europe s'est réveillée de la Première Guerre mondiale et s'est rendue compte que toutes les valeurs de la Belle Époque étaient fichues, étaient suicidaires, qu'au nom de la vérité, on s'était battu pendant 4 ans, au nom de la patrie, au nom de la bonté, etc. Et ça, c'est un problème vraiment philosophique, et en cela, il est de la famille de Socrate. C'est ça qu'il y a de plus dur à entendre, c'est que c'est pas un salaud au départ. C'est un philosophe qui pose des questions philosophiques. Mais alors, si vous voulez, c'est sur 3 points, c'est pas dans les concepts. Alors là, parce que de fait, il en arrive à être extrêmement compliqué, et ça fait plaisir à tous les profs de philosophie, puisqu'ils peuvent eux aussi devenir extrêmement compliqués. Mais c'est sur des choses très simples que la division entre les socratiques et Heidegger se fait. Les socratiques, c'est des gens qui posent, oui, de fait, des questions très simples, mais très fondamentales. Vous savez, en France, il y a une tradition socratique, c'est celle de Montaigne, dont les essais interrogent et demandent que sais-je. Mais interroge quoi ? La réalité, les guerres de religion. C'est la lignée aussi de Descartes qui dit qu'il écrit en français pour être compréhensible pour les femmes. Hein? Alors que les hommes avaient appris le latin à l'université. Donc, pas de latinité, pas de complication. Bon. Heidegger, lui, complique, mais c'est sur 3 points qui sont extrêmement simples qu'il y a des différences. Le premier, c'est apprendre à mourir. C'est vraiment un des problèmes premiers de la philosophie. Et là-dessus, si vous voulez, Heidegger a une idée aristocratique de la mort. Il dit que la capacité d'organiser sa vie dépend de la facilité ou de la faculté de choisir sa mort, comme, en quelque sorte, comme le guerrier. Le guerrier, c'est celui dont l'apothéose est le moment où il tue et il se tue.
On va y revenir dans la seconde partie de cette émission.
Le deuxième point, c'est, en quelque sorte, apprendre à aimer, vivre avec les autres. Et là encore, Heidegger, lui, dit qu'il y a une sorte d'âme de la langue, l'âme d'une patrie, d'une Heimat, comme il dit, alors que Socrate, lui, parie pour le déracinement. Vous savez, Athènes, c'était la ville de tous les déracinements. Et le troisième point, c'est comment survivre. Et dans ce point qui intéresse absolument tout le monde, qui est une question pour adolescents, pour vieillards, comment survivre, là, encore une fois, tandis que Socrate dit on peut combattre le mal, on peut combattre notre propre ignorance, notre propre méconnaissance, Heidegger dit non, il y a un monde mauvais, le monde de la technique, le monde qui existe, qui a été mis en place par Platon et Aristote, d'ailleurs, et qui explique que je n'ai pas à m'excuser d'avoir été nazi, parce que, au fond, alors ça c'est quand même un comble, l'agriculture mécanisée, c'est-à-dire les tracteurs dans les champs, et les camps de la mort, c'est-à-dire les chambres à gaz, c'est la même chose, c'est le monde pervers de la technique.
André Glucksmann, comment... Alors, on va pas ouvrir, évidemment, en quelques secondes, même en quelques minutes, le procès fait à Heidegger, très important, évidemment. Mais comment expliquer que, voilà, 90 ans que ce philosophe domine, sans discontinuer la scène intellectuelle allemande d'abord, européenne ensuite, mondiale enfin, et puis particulièrement française. Comment expliquer que sa pensée se mondialise en quatrième vitesse? Vous posez même une question qui pourrait être prise pour ironique, vous dites « à quand l'Afrique si ce n'est déjà fait ?»
Oui, c'est déjà fait d'ailleurs. Mais écoutez, c'est vraiment ma question depuis l'origine. Mon premier travail, une fois mes études et mes examens terminés, c'était un diplôme sur Heidegger. Et j'essayais de m'expliquer comment on peut être à la fois philosophe et nazi. Et mon diplôme, je l'ai fichu au panier parce que à l'époque, je n'avais pas la réponse du tout. Et en plus, les œuvres de Heidegger étaient peu connues. Pas le fait qu'elles n'étaient pas traduites en français, c'est pas grave, je savais l'allemand. Mais même en Allemagne, ces cours, c'est-à-dire une centaine de volumes, n'étaient pas encore publiés. Alors depuis, je me suis renseigné, depuis les cours ont été publiés, j'ai quand même plus de lumière, mais surtout depuis, j'ai élargi. C'est-à-dire que non seulement il y a un philosophe qui a soutenu Hitler, mais des philosophes ont soutenu aussi Staline et le communisme, et des penseurs pas du tout négligeables, les chiites par exemple, ont soutenu et soutiennent l'intégrisme des bombes humaines. Donc il y a là quelque chose de plus que simplement les erreurs d'un homme. Il y a quelque chose, alors prenons sur le plan de la mort, je vous ai dit un des trois points c'est la mort. En 36-37, quand je naissais, dans l'université de Salamanque, le cri a retenti « Vive à la muerte, vive la mort !» Et le pauvre philosophe qui était recteur de l'université de Salamanque, Unamuno, qui était d'ailleurs plutôt réactionnaire, comme on dit, et plutôt partisan de Franco, quand il a vu les franquistes crier cela, a dit « Mais ce cri nécrophile, c'est la pire des choses. » Et alors la salle a répondu « À mort les intellectuels ». Et Madame Franco, qui était là, a été obligée de soutenir et de protéger son philosophe, Unamuno. Il était très courageux dans ce sens. Mais ce cri « Vive la mort », je l'entends évidemment quand les SS envahissent l'Europe. Ils avaient d'ailleurs des ceinturons à tête de mort, etc., etc. Je l'entends aussi dans la cruauté inhumaine des communistes bolcheviques qui ont mis à feu et à sang, enfin, c'est 50 millions en Chine, c'est 50 millions en Russie, de morts, de guerre civile, de morts de civils. Et je l'entends évidemment quand je vois les bombes humaines et les attentats contre les simples passants. Mais si vous voulez, c'est pas uniquement une question d'idéologie. Parce que il y a une statistique qui était donnée en 92, elle dit en 14-18, la Première Guerre mondiale a fait 80 morts en uniforme et 20% de civils. La Deuxième Guerre mondiale, c'était 50-50, moitié de civils, moitié de soldats. Et la guerre froide et la suite, c'est encore 30 millions de morts uniquement de guerre. Local, tout ce qu'on veut, c'est cette fois-ci 80 à 90% de civils morts. Et cette faculté de venir, de crier « Vive la mort !» au fond, et d'appliquer ce cri, et d'en faire son slogan, et d'en faire son mode d'emploi, c'est cela que j'appellerais une religion de la mort qui bouffe, qui dévore, qui atteint toutes les religions, mais pas seulement les religions religieuses, avec des dieux, mais aussi les religions profanes du style socialisme ou du style nationalisme, etc. Ou du style racisme, évidemment.
Oui, vous ajoutez ailleurs dans cet essai que Heidegger et ses disciples, entre guillemets, évidemment, s'est en fait livré à un travail assidu de démoralisation. André Glucksmann, nous allons maintenant marquer une pause et faire place à un flash d'information préparé par la rédaction, mais bien sûr, vous restez avec nous et dans 3 minutes, vous allez continuer à explorer deux manières de philosopher, deux chemins, étant bien entendu que ces deux manières d'exister et de méditer sont, par leurs engagements inconciliables, avec d'un côté Socrate et de l'autre Heidegger, titre de l'essai que vous venez de publier chez Plomb, Les deux chemins de la philosophie. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, invité d'idées cette semaine, André Glucksmann. À tout de suite.